Pom 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 pom
pom pom
pom
pom
pom
Française, français, belge, belge, mon président, mon chien, indécrottable raclure du barreau de mes deux chaises, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Le seul fait que Cavana existe, mesdames et messieurs les jurés, est une insulte au bon goût français. Je connais personnellement, de par mes humbles activités littéraires, dont je ne dirai rien d'autre, pour ne pas faire de publicité aux éditions du Seuil, je connais, dis-je, dans les milieux huppés des belles lettres françaises, quelques journalistes trou du cul pompeux qui trou du cul pompisent dans mains hebdomadaires glacées et s'esbaudissent volontiers à la relecture de Rabelais alors qu'ils trouvent Cavana vulgaire. Le monde est ainsi fait d'étranges paradoxes. Je connais aussi des gens qui trouvaient Giscard nul et qui trouvent Mitterrand génial, par exemple. D'autres qui vomissent Jaruzelski, mais qui souperaient volontiers chez Pinochet. Alors que, à part la marque des Ray-Ban. Mais je m'écarte du sujet, et c'est tant mieux, parce que, autant vous l'avouer, mesdames et messieurs les jurés, même pour de rire, je serais incapable d'enfoncer Cavana, qui reste aujourd'hui l'inventeur de la seule nouvelle forme de presse en France depuis la fin de l'amitié franco-allemande en 1945, et l'un des derniers honnêtes hommes de ce siècle pourri. Croyez-moi, Cavana, seule la virulence de mon hétérosexualité m'a empêché à ce jour de vous demander en mariage.
C'est Daniel Mermet, c'est la bassiste qui suit, François Ruffin, Pain, Cavana, bête et méchant.
Flight number 2, arriving from...
Merci beaucoup.
Voilà.
Je ne suis pas dans un bistrot parce que j'ai un peu le trac, je vais aller rencontrer... le héros de mon adolescence, François Cavana. J'avais son portrait au-dessus de mon lit, comme une photo de chanteur ou de footballeur. Ça a été, je crois, mon meilleur professeur de français, hein, puisque, par exemple, dans un de ses bouquins, il dit qu'il déteste les points-virgules. Donc, ça fait maintenant à peu près 20 ans que j'écris sans un seul point-virgule dans mes articles ou dans mes livres. J'avais appelé mon chat Tamara dans son roman historique Les Fausses Carolines. Il y a une esclave qui s'appelle Tamara. Donc j'avais appelé mon chat Tamara. Je savais qu'il n'aimait pas qu'on mette des timbres-poste dans les lettres. Sinon, il répondait pas, parce que c'était comme si on voulait l'obliger à répondre. Donc quand je l'ai croisé, pour de bon, en chair et en os, à la bibliothèque municipale de la ville d'Amiens, où il venait présenter un livre, Cœur d'artichaut, je lui avais écrit une lettre, et dans la lettre, j'avais pas mis de timbre-poste. Bon, il n'a pas répondu quand même. C'est un peu mon cadeau de Noël. Rencontrer Cavana, et puis je suis payé en plus. Je suis payé pour rencontrer mes héros, voilà mon boulot. C'est pas beau? Allez.
Oh, quelle époque! Quelle aventure merveilleuse! Quel talent ils avaient, mais quel talent! Rézère, oh, Rézère! Quel coup de patte! Et Volinsky, oh, quel culot! Les dessins de Volinsky! Et Cabu, quel coup de patte absolument génial! Inimitable! Et GB, oh GB, les histoires de GB, les romans photos de GB, mais quelle audace, quel talent ils avaient! Et Topor au début de l'aventure était là, Topor inimitable, pff, la subversion même, Topor, mais c'était vrai. Et Choron, quelle aristocratie dans la vulgarité, Choron. Et puis alors, au-dessus de tout ça, avec sa moustache et ses chevaux au vent, Cavana, le talent, la tendresse, l'anarchie, le bagou, la culture, qu'ils étaient absolument formidables. Eh bien, si vous vous dites ça en écoutant cette émission, c'est foutu, on va vous interdire d'écoute. parce que ça s'appelle le vieux conisme. Le vieux conisme, c'est de penser que c'était mieux avant. C'est toujours mieux avant, que c'était extraordinaire, que tout le monde avait du talent, était merveilleux, et qu'aujourd'hui, c'est foutu, c'est fichu, on vit une époque pas formidable du tout. Si vous pensez ça en écoutant cette émission, cette heure que nous allons passer ensemble, c'est cuit, c'est foutu, je vous le répète. Parce que, bien sûr, c'était pas différent maintenant. Et aujourd'hui, il y a un tas de gars, des jeunes et des moins jeunes, qui ont du talent, qui sont marrants, qui sont subversifs, et qui sont tendres, et qui sont éclairants, et qui ont un coup de patte formidable, bien évidemment. Et si vous leur faites les poches, si vous leur remontez les bretelles, si vous faites tout à fait autre chose, mais avec évidemment la même rage, la même envie, le même désir, eh ben ce sera très bien. Si vous inspire, si vous les choisissez comme ancêtres, eh ben alors là ce sera réussi. Beaucoup d'entre eux, vous le savez bien, sont effectivement devenus des vieux cons, dont l'un qui disait « Nous nous sommes battus pour ne pas devenir ce qu'on est devenu ». Ces vieux cons, bien sûr, on a la liste, on ne la donnera pas à l'antenne, mais sur cette liste, en aucun cas, figurera le nom de François Cavanna.
Faut toujours emmerder les gens qui veulent avoir raison. Voilà une tactique infaillible, la position de repli suprême. Ce qui l'emmerde d'instinct et profondément, avec une rare ferveur, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Ça me permet de ne pas entretenir de vilaine rancune, de rester propre du dedans. J'aime ou j'emmerde. La plupart de mes contemporains aiment ou détestent. Moi pas. J'aime ou j'emmerde. Pour hey, il faut mobiliser sa bile. Tandis qu'emmerder vous laisse paisible. Ça vous préserve des autres et de vous-même. Bref, c'est une forme de sagesse, car il faut dans le fond une belle sérénité d'âme pour emmerder les gens qui vous emmerde.
Alors François Cavanna, vous étiez le héros de mon adolescence. J'avais votre portrait au-dessus de mon lit, comme pour les, comme pour les footballeurs. Vous voyez, c'est, je l'ai amené le portrait.
Ah non, mais c'est marrant. Comme tu dis, comme un footballeur.
Et avant vous, il y avait eu Platini, donc un autre Ital, et après il y a eu François Cavanna.
C'était Saint Diaz.
Donc là, sur le dessin qui était au-dessus de mon lit, il y avait une citation de Desproges à côté, bon, où il dit à la fin « Seule la virulence de mon hétérosexualité m'empêche de demander François Cavanna en mariage ». Donc on vous voit là, sur le dessin de Viaz, on vous voit assis au pied de la rue Sainte-Anne, donc la rue Sainte-Anne qui est la rue de votre enfance, à Nogent, et c'est un coin rital, c'est une cité, c'est un quartier.
C'était des maisons croulantes. Les Français, peu à peu, s'en étaient retirés, et il n'y restait que des immigrants italiens, quoi. Et les quelques familles françaises noyées là-dedans, c'était presque tous des gens à la côte, qui, des miséreux, quoi. Nogent-sur-Marne, c'était vraiment la petite Italie, c'était appelé comme ça. Et non seulement tous des Italiens, ces gens-là venaient tous de la même vallée, et parlaient donc tous le même dialecte. Parce que la vallée d'à côté parlait déjà plus tout à fait le même. La plupart d'entre eux n'avaient jamais de contact avec un Français. Sur le travail, sur le chantier, ils avaient affaire qu'à des copains à eux, qu'à des... rentrer à la maison, ben, ils avaient leur femme qu'ils avaient fait venir de là-bas, la même chose. Mon père, par exemple, n'a jamais vraiment parlé le français, ni l'italien. Il parlait ce dialecte qui est extrêmement bizarre, d'ailleurs.
Parce que quand on parle de ghetto aujourd'hui...
C'était un ghetto, et ça fonctionnait absolument en ghetto. Et noyé au milieu d'une grande communauté française, qui, on peut dire, les ignorait, quoi. Ils étaient en plein centre. de Nogent. Et tout autour, c'est une ville petite bourgeoise. Très bien tenue, très compte à soi.
Donc vous étiez la racaille de Nogent ?
On était la racaille, exactement la racaille. On était le bouc émissaire universel du peuple français. Vous venez bouffer notre pain, les ritales, on en a marre, les macaronis. Et bon, voilà, c'était très dur à vivre.
Hein. Le premier chapitre de L'Œil du Lapin, vous êtes amoureux de Gisèle Bénoté. Gisèle Bénoté qui est une petite fille à l'école maternelle, vous êtes amoureux d'elle.
Je la vois encore. Je la vois là, devant mes yeux.
Comme vous êtes le meilleur élève de la classe dès la maternelle, vous êtes au premier rang. Elle est la meilleure fille de la maternelle, on vous met à côté. À la fin, elle pleure parce qu'elle est prise en photo à côté de vous. Vous ne comprenez pas pourquoi, ça. Et à la fin, elle le lance à sa mère en pleurant. Mais c'est un macaroni.
Bah oui. Gisèle Bénoté a arraché sa petite main dans la mienne. Elle a couru jusqu'à sa mère. Elle s'est blottie contre sa jupe comme si elle voulait s'enfoncer dedans. Elle a crié de toutes ses forces. « C'est pas mon fiancé, c'est un sale macaroni !» Je m'en fous, je l'aimerais quand même toute ma vie. Ah oui, toute sa vie était comme ça. Quand on allait chercher le pain chez la boulangère, tous les autres clients passaient devant nous et on était là, on attendait. Enfin, des tas de petites avanies comme ça, des méchancetés. Les instituteurs, par exemple, que j'ai eu. Bon, ils m'aimaient bien parce que j'étais un bon élève, mais en même temps, ça les gênait. Qu'un petit rital, qu'un petit étranger, là, fasse mieux que les Français. Je me tenais pas à mon rang. Voyez-vous.
Père italien, mais mère française. Vous êtes un métis, non?
En plus, j'étais mal barré.
Il y a comme un père lumineux, un père qui est la joie, qui tape du poing sur la table quand il joue aux cartes, qui n'arrête pas de rire, de chanter, qui crache ses chics, qui collectionne les os de poulet dans ses poches pour les donner aux chiens quand il les croisera.
Il avait même des carottes, il avait pour les lapins.
Donc, un père qui déborde d'affection pour vous.
Pour le monde entier. Mon père rayonnait, oui.
Et de l'autre côté, une mère plus sombre, un peu mélancolique. Elle a surinvesti sur vous. Dès la maternelle, on sent qu'elle est derrière vous, qu'elle souhaite que vous ayez les meilleurs résultats de la classe, que vous ayez ramené des bons points, des images, que vous ayez votre médaille de zéro en orthographe qui batte sur votre torse.
C'est vrai. Mon père, j'aurais pu faire n'importe quoi. Il m'aurait toujours aimé, toujours pour lui. J'avais pas besoin de l'épater, pas besoin d'avoir des résultats qu'il nous... Il m'aimait. Ma mère, mais oui, elle m'aimait. Mais elle avait besoin d'être fière de moi. Ma mère, ouais, était très très fière de moi. Je peux pas dire autre chose. Ça tenait une grande place dans sa vie. Jusqu'au jour où je n'ai plus été un petit garçon.
Et donc, là, je lis quelques passages. C'est sur vous et votre mère. Maman n'a eu qu'un grand amour dans sa chienne de vie, moi. Elle avait son fils. Elle n'avait plus besoin de rien d'autre. Je n'ai pas de frère ni de sœur. Je pense que, aussitôt ma naissance assurée, elle a laissé à papa le grand lit et s'est exilée dans le liquage. J'ai été l'amour fou de maman. Je dis j'ai été et pas je suis, car un jour j'ai cessé d'être un petit enfant.
C'est un seul tout compris qu'elle était toute seule, quoi, que j'étais plus là. J'étais plus son petit François.
Alors, je vais dire, c'est le début de Mignonne, allons voir si la rose. J'étais destiné à devenir maçon comme papa ou employé des postes, ce qui aurait fait tellement plaisir à maman. J'aurais été l'un ou l'autre sans regret. J'aurais, je le sais, fait joyeusement mon boulot. J'aurais été un maçon habile et consciencieux ou un postier qui aurait grimpé les échelons. J'ai d'ailleurs été l'un et l'autre, successivement. Si je ne m'y suis pas tenu, c'est que mes réactions devant les hasards de la vie, en une époque tout spécialement épouvantable, m'ont projeté hors de l'orbite assignée. Donc là, ce qui va bouleverser votre destin, c'est ce qui a bouleversé le destin de millions d'hommes, c'est la guerre
39-45. Oui, bien sûr, les STO... Le décret, en février 43, était à peine passé que se trouvait dans un wagon à bestiaux en route pour Berlin. Exactement le jour de mes 20 ans, je me suis retrouvé à la gare de l'Est, gardé par un cordon de flics, avec un tas d'autres gars de mon âge. Pour où, on savait pas. Est-ce qu'on était des otages? Est-ce qu'on était? On savait pas. Et écoutez, c'est un peu comme les juifs que j'ai vus rafler un jour, en 1942. J'ai vu la grande rafle qui avait eu lieu sur le faubourg Saint-Antoine. Les gars partaient, on les faisait descendre de chez eux, ils étaient sur le trottoir, ils attendaient les autobus. Ils étaient tristes, leur famille les voyait partir, mais ils se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient, ils se laissaient embarquer comme des cons, comme nous. Ils savaient pas qu'ils allaient vers la mort. Nous, ça s'est pas terminé aussi dramatiquement, mais on était aussi cons. qu'est-ce qu'on est moutonnier, bon Dieu, qu'est-ce que... Je me suis trouvé dans un wagon à bestiaux qui a mis 3 jours pour atteindre Berlin parce que c'était la guerre, hein. Il y avait des convois, il y avait mes yeux sont ouverts bien grands parce que je voyais tout ça comme une espèce d'immense aventure. Vous vous rendez compte, pour moi, Berlin, c'était devenu le camp des Tartares. C'est Michel Strogoff. Regarde de tous tes yeux, regarde. C'était cette fameuse phrase dans la tête d'un chapitre de Michel Strogoff, quand on lui brûle les yeux. Et je regardais de tous mes yeux ces types en caftan, couverts de peau de mouton, avec ces bonnes femmes entourées de capoques, de cochonneries, des trucs pour te tenir chaud. Les Allemands, ils faisaient quelques façons en France. Ils mettaient quelques manières pour faire semblant que ce soit légal. En Ukraine, en Russie, ils se cassaient pas tant la tête. Ils renflaient un village entier. Je les ai vus débarquer aussi, ça. J'ai fait connaissance là, au bagne, avec le peuple russe. Oui.
Voilà, parce que le capitalisme allemand profitait bien de cette guerre, mais l'ennemi avec la guerre, c'est que les travailleurs étaient au front. Donc on a fait venir, vous avez compris, avec le STO, c'est-à-dire le service du travail obligatoire, avec la complicité du gouvernement de Vichy, des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de jeunes Français au titre de ce travail obligatoire, du service du travail obligatoire. Ils ont été entre 600 000 et 650 000 entre 1942 1944 à prendre ses wagons pour l'Allemagne, pour se retrouver à travailler dans des usines et à être, voilà, à faire marcher la machine allemande. Mais de l'autre côté, eh bien, il y avait aussi des prisonniers de guerre russes qui travaillaient dans ces camps au titre du STO. Et il y avait du côté français un certain François Cavanna et de l'autre côté russe. Vous connaissez sans doute l'histoire, ce beau livre de François Cavanna, les Ruskov, une certaine Maria.
Et donc vous arrivez en Allemagne pour le pire et pour le meilleur.
Voilà, on arrive complètement exténué une nuit, on se retrouve dans un grand camp de triage qui était le marché aux esclaves. Les chefs du personnel des grandes entreprises venaient se servir, ils choisissaient puis ils embarquaient. Je me retrouve dans un camp, comme tous les camps, quoi, des barbelés avec... On était complètement abrutis, crevés, ces 3 jours sans dormir. On nous fout dans des cabanes, il y avait des lits superposés. Et bon, voilà, on désigne un lit, tu es là, je pose mon fourbi là. Et à ce moment-là, l'interprète, c'était un Belge, qui me dit, bon, bah, écoute, mon vieux, c'est triste pour toi, il faut que tu ailles travailler maintenant. De but en blanc, je me suis retrouvé dans une énorme machine, c'était une presse. Sur cette presse, on était 3 à travailler. Il y avait le chef de presse qui était censé être le français. Et puis, il y avait 2 Russes, 2 femmes ukrainiennes. C'était Maria, quoi. Je croyais qu'elle était allemande. Je savais pas ce qu'elle était. Je m'en foutais. C'est elle qui m'a appris les gestes que je devais faire. Il fallait qu'on marche bien ensemble. Pendant 15 jours, j'ai cru que je parlais allemand alors que je parlais russe. Et dans cette nuit de fantasmagorie, dans cette nuit, j'étais absolument crevé où je tenais. Je voyais plus clair. Je savais plus de bouger. J'avais faim. J'avais sommeil. Cette fille m'est apparue. C'est pas qu'elle m'est apparue. Elle était la fée, l'amour, la femme. C'était des amours tout à fait platoniques. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. On ne pouvait se voir qu'au travail. Le reste du temps, on était dans des camps séparés. On a couché ensemble pour la première fois et pour la seule fois. Quand les Russes, quand l'armée rouge nous a délivrés. Et aussitôt après, on s'est perdu.
Et vous l'avez cherché en vain, alors?
Voilà. Et j'ai su qu'elle me cherchait aussi. J'ai reçu par des connards qui... Oh, ta gonzesse, on l'a vu, hein, elle te cherchait, tu l'as... Bah, on dit, c'est tout? Tu l'as pas prise avec toi? Oh, mon Dieu, moi, l'histoire de cul, hein, pas... Peut-être que j'ai pensé que t'en avais marre, t'allais rentrer en France, que tout était... J'ai traîné en Poméranie comme ça pendant à peu près 2 mois. Tout ça à pied, hein, dans un pays complètement dévasté, où il n'y a plus rien. Ce qui me sauvait, c'est que je la cherchais. Mais je remuais ciel et terre. Le temps que je suis allé à l'ambassade russe, au consulat soviétique, à la Croix-Rouge, à des tas d'organismes, même la Croix-Rouge canadienne qui est à Paris, pour tâcher d'avoir des nouvelles ou d'aller là-bas même, peut-être. J'étais même prêt à aller en URSS sans espoir de retour. De me faire citoyen soviétique, je m'en foutais, d'abord je ne savais même pas trop ce que ça représentait.
Vous avez rencontré cette femme, donc Maria, vous avez espéré vivre avec elle, vous en avez été détaché, et vous avez même écrit un livre. Là, vous imaginez que vous allez retrouver Maria à la fin de votre vie.
Mais c'est pas signe à ce moment-là. C'est que Pierre Bellemare avait une émission à l'époque, et où il s'agissait de faire se rencontrer deux personnes qui s'étaient beaucoup aimées, ou enfin, qui avaient une grande amitié, et qui s'étaient perdues de vue depuis longtemps. Les faire se retrouver. Il avait lu les Ruskov, et il m'avait envoyé une jeune femme, une collaboratrice, pour me proposer de retrouver Maria. Alors, ben, j'ai dit oui. Tout ce que je savais de Maria, c'est qu'elle était de Kharkov, en Ukraine. Et ils avaient fait des recherches à Kharkov et dans les environs. Ils avaient mobilisé des étudiants en français, interrogé des policiers. Et même à un moment donné, si, ils avaient bon espoir. Mais finalement, ça n'a débouché sur rien. Ils ne l'ont pas retrouvé. Alors, ça m'a donné une idée de prolonger, de faire qu'ils l'avaient effectivement retrouvé. Et je racontais ça, quoi. C'est 2 ans et demi d'espoir, de tension, de... Oh, puis elle m'a sauvé la mise plus d'une fois. Hein. Ça a été très débrouillard. Ouais, moi, je faisais le con. C'était une espèce d'escogriffe, va de la gueule. J'emmerdais les cheveux. Le travail était pas l'horreur pour moi. C'était des gros travaux pénibles, mais j'en avais l'habitude. Mais je supportais pas qu'on me fasse faire ce que je voulais pas faire. Ce que j'ai fait, ça peut pas s'appeler de la résistance, mais je peux s'appeler du sabotage. Pas pour une cause, pas pour la France, pas pour... Non. Parce que ça me faisait chier. Parce que je n'admettais pas qu'on m'ait pris, qu'on m'ait foutu là. Alors je faisais le con. Je travaillais pas, ou je travaillais mal, ou je cassais les machines. Et j'ai eu 3-4 avertissements de la Gestapo, comme quoi on allait me foutre un Arbeitslager. Et j'ai été sauvé de ça quand les bombardements sont devenus intenses, quand les Américains s'en sont mêlés. Les grosses usines devaient fournir un certain nombre de types pour aller déblayer les ruines chaque matin, après les gros bombardements de la nuit, pour tâcher de sortir les mecs pas trop morts encore sous les décombres. Naturellement, les usines se débarrassaient de leurs racailles, des bons à rien, des saboteurs, des traînes-patins. Et donc moi, je me suis retrouvé dans une de ces équipes, gardée par 2 types avec le fusil en bandoulière, le matin, partir avec la pioche sur le dos pour aller chercher les pas tout à fait morts. C'est un miracle que j'ai ramené ma peau.
Donc vous ramenez votre peau quand même, avec 2 phalanges en moins.
J'ai été écrasé sous une presse. Oui.
Avec 2 phalanges en moins et une oreille en moins.
Détruite. À l'oreille, c'est à la suite d'une bombe qui est tombée trop près. Ça. Quand je cherchais sous les décombres, là, les Maccabées. Non, cette perte de Maria, cette... beaucoup plus déstabilisé que toute la déportation, que tout ça. Non, il n'y a qu'une chose qui dominait tout, c'était ça. Écoutez, j'ai découvert une chose, c'est que dans ma vie, il n'y a qu'une chose qui peut importer, c'est ça. C'est ça, la femme. Il n'y a que ça qui peut m'apporter de la joie, qui peut m'apporter du malheur. Moi, toute ma sensualité, tout mon besoin d'affection et de donner et de recevoir, tout... Tous mes voeux tendent vers la compagne, quoi, la femme. Et quand je me suis mis à faire des journaux, je gagnais ma vie, mais en faisant de la merde. Et à ce moment-là, j'avais déjà 5 gosses avec ma femme à nourrir. Il fallait vraiment ramener la paix à la maison. Alors, je faisais de mon mieux, je faisais les dessins que je savais qui passeraient, qui étaient de la merde, parce que quand je faisais un bon dessin, on le refusait. Je faisais comme tout le monde, je faisais du caca. Mais j'avais en idée que je ne voulais plus continuer comme ça, qu'il fallait, ou alors il faudrait un bon journal. Qui aurait les capitaux pour fonder un journal à ma guise, un journal où, bon, bah, j'ai trouvé un gars qui me pouvait, c'était Choron. Ce gars-là était un vendeur fabuleux et un meneur d'hommes encore plus fabuleux. Moi, je nous ai miroité toujours cette idée d'un grand, vrai, beau journal où on dirait tout ce qu'on veut, on a du vrai bon humour. Et j'ai réussi à le convaincre. C'est bien qu'un jour, avec Choron, on a lancé notre vrai beau journal, qu'on appelait Acme. Vendu par colportage uniquement. Ça, c'était déjà un truc énorme d'avoir trouvé un gars qui n'avait pas un rond, mais qui savait faire du pognon. Et le miracle, c'est pas ça. Le miracle, c'est quand j'ai vu répliquer, en quelques mois, à peine le journal sorti, un gars qui s'appelait JB, un gars qui s'appelait Wolinski, un gars qui s'appelait Réserve, un autre qui s'appelait Cabu, et Topor. Vous vous imaginez? Mais vous vous imaginez? Ces gars-là, qui n'étaient pas encore au point, mais on les sentait, on le voyait, ça frémissait. Alors là, ça, c'était le miracle. Je reviens pas que ça se reproduise.
Alors là, vous écrivez, hein. C'est sur la fondation de Harakiri. Harakiri, journal bête et méchant, c'est nous. Le journal fabuleux qu'on se faisait miroiter, yeux noyés, devant un demi-panaché pour nous consoler, nous venger, nous exciter la glande, aux heures de déprime, après avoir bien fait nos putes dans ces hebdos de merde pour qui on n'est jamais assez lourdingue, jamais assez rampant, jamais assez amant en caleçon dans l'armoire à glace, jamais assez con, jamais en un mot assez parisien. On l'a notre journal, il est à nous, on y fait ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut, pourvu que ce soit bon, bon pour nous, c'est nous les juges.
Quand je pense à ce que je faisais, à la manière dont j'ai rempli mes journées à ce moment-là, je n'en reviens pas. J'écrivais à tour de bras à peu près la moitié des pages du bouquin de ma main.
Vous aviez le feu sacré parce que finalement c'était la première fois que vous faisiez ce que vous vouliez aussi, non?
Oui, oui. Et quand j'ai eu des gars à diriger, j'ai fait de mon mieux pour les faire s'épanouir, les forcer à devenir ce qu'ils devaient être. Et vous, un Wolinski, un Réserve, tout ça, ça ne s'est pas fait tout seul. Mon boulot consistait à les aider à devenir eux-mêmes. Eh ben, je l'ai fait, de mon mieux. Ce qui est, c'est que j'étais un peu plus vieux que tous. Ça signifie bien qu'effectivement, je pouvais avoir un peu une position de père, c'est vrai.
Alors là, vous écrivez, hein. Mon vrai boulot, c'était la détection des gars. Ça, oui, très important, vital. Et ça, c'était mon boulot. Repérer, parmi tout ce grouillement de têtards, ceux qui ont le signe. Savoir voir la lueur, ténue, autour de leur tête. L'intelligence et la patte. Et tout le reste, la curiosité, l'insatisfaction, l'ambition. Ne pas les louper, les bénis des dieux. Ne pas se tromper. Ne pas s'emballer sur le tocard à facilité. Le talent n'est que du talent sans les perdus besoin de crever le plafond, sans la capacité de se faire souffrir, sans l'inhumaine patience, sans l'acharnement bec et ongles, sans les coups dans la gueule encaissés, oubliés. Oui, je deviens lyrique quand je parle d'eux. Mère poule couveuse de bébé cygne. M'en fous. De ça, oui, je suis fier, merde, et pas qu'un peu. Au premier malhabile gribouillage, reconnaître un futur riser, un Wolinski, un Cabu, un GDB, un Willem, un Fournier. Je l'ai fait, moi, c'était mon boulot à moi, mon humble et décisif boulot, et croyez que je tremblais, que je me disais, t'es pas gonflé, du con. Et si tu te fous dedans? Si ce type ne vaut que dalle, ou pis, il est simplement pas trop mal, comment tu iras le lui dire, hein? Tu te vois le virer? Lui dire, pardon, mon pote, ce que tu fais, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas assez pour nous. Tu te vois lui dire ça?
Et mon boulot, c'est aussi de gonfler les autres, de les guider, de les envoyer chier parfois. Le petit Réserve qui restait plus d'un an sans pouvoir travailler en rencontrant du service militaire, il me faisait que des conneries, les militaires l'avaient tué. Eh ben, mais je m'y cramponnais parce que je savais que Réserve, je le savais, un bonjour, Réserve, ça y était. Il était sorti de la gang et, ouf, voilà. Ah, ça c'est chouette, non?
Ce qu'on pourrait faire, et alors le plus franchement du monde, c'est peut-être dire un mot sur Cavana.
Antenne 2.
Ce que vous ne lui avez jamais dit, vous pourriez cette fois-ci lui dire. Alors, je ne sais pas si vous aurez ce courage. On va commencer par Cabu.
24 avril 1980.
Non, mais franchement, quoi. Parce qu'alors là...
Oh, oui. Bah, je voudrais lui demander s'il a été, oui ou non, volontaire pour travailler en Allemagne.
Oh, c'est la grosse rigolade. C'est l'échappatoire. J'ai répondu, tu le fais très bien, ça fait depuis 30, 20 ans.
Comment vos pintades?
Non, je t'emmerde.
Vous lui dites vous?
Ah oui, je lui dis.
Oui, me dites-vous.
Et pourquoi?
Ah, voilà, voilà une bonne question.
Parce que.
Pourquoi ben, depuis 22 ans, si pas me dites-vous?
C'est le patriarche, c'est ça?
Eh, voilà.
Non, mais quand je suis arrivé, c'était déjà un monsieur. Et tous les deux réserves, on dit toujours vous à Cavana et à Choron, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais.
À Choron aussi?
Oui.
Alors, GB, comment on regarde. Papa Cavana. Ah non, j'aurais pas dû dire papa.
Ah, pour moi, c'est pas papa Cavana. Cavana, c'est pour moi, c'est un peu mon double. C'est un double que j'oserais pas reconnaître. C'est mon double critique. Et c'est mon complément. C'est-à-dire qu'il est pas plus que moi, mais il m'est indispensable.
C'est un bon dessinateur.
Ah ben, je sais pas. Non. Non, je crois pas. Mais c'est un écrivain prodigieux. Ouais. Ça, c'est sûr.
Je dessine pas mal.
Ça, c'est sûr. Il a rôdé autour de pas mal de moyens d'expression et qui ont été le dessin, le photomontage, la photo, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, il est venu à ce qui était son moyen d'expression, c'est-à-dire l'écriture.
Oui, Choron.
Cavana exerce un pouvoir ici. Il s'en rend pas compte, mais Cavana pèse sur nous tous. Cavana a eu une personnalité tellement forte, si tu veux, qu'on l'a dans la tête. Parce que s'il y a un mec qui connaît Cavana, pas depuis 20 ans, mais depuis 25 ans, à l'époque où on vendait les journaux dans la rue et tout ça, tu comprends? Bon, il peut partir demain, faire son métier d'écrivain, mais il pèsera encore longtemps sans le savoir.
Au bout d'un an, vous avez votre première censure.
Oui, interdiction à l'affichage. Chose épouvantable. Qui existe toujours, qui est une loi de dictature, une loi de coup d'État, et qui pourra très bien servir.
Bon, ça part du ministère de l'Intérieur, par le banc du ministère de la Justice, ministère de l'Information. Vous faites la tournée des ministères, et puis à chaque fois, on vous fait un peu la leçon en vous disant que, bon, vous êtes un peu jeune, vous êtes un peu trop fougueux, essayez d'être moins fougueux. Et on vous demande de faire une série de numéros qui seront pas vendus, mais juste pour prouver que vous vous améliorez, que vous êtes un peu moins jeune, un peu moins fougueux.
Imprimé à un exemplaire. Enfin, à 3 ou 4, quoi, mais fallait le faire, le mettre en page et tout, et le faire de son mieux et l'imprimer.
Et tout ça pour pas un rond, parce que comme c'est pas
et
vendu.
Pas un rond, non seulement il n'était pas vendu, mais on n'avait pas un sou de chacun. Et moi, pour survivre, je faisais des conneries, de la publicité, des couvertures de bouquins policiers pour arriver à bouffer. Choron, c'était un gars qui avait besoin de situations désespérées. Quand il était devant le trou noir, là, il déployait tout son génie, toute son astuce d'aventurier, je ne peux pas dire le contraire, un séducteur.
Alors là, par exemple, ça c'est lors de la première interdiction, on voit Choron en action devant l'imprimeur. Un beau chambard dans l'imprimerie, Guichard, donc l'imprimeur, qui se retrouve avec ce tas de papiers sur les bras. Je vous l'avais bien dit de ne pas jouer au con, Choron le rassure. Choron rassure toujours les gens, il leur dit n'importe quoi, ils savent que c'est n'importe quoi. Ils savent que c'est pour les rassurer, pour qu'ils lui foutent la paix le temps de trouver. Ils savent qu'il n'a pas lui-même la moindre idée de ce qu'il va faire, qu'il n'y croit même pas à ce qu'il leur dit, qu'il a la trouille au ventre et la purée dans la tête, ça ne fait rien, ils le croient. Alors là, c'est Choron. Demain, tout ça sera parti, qu'il leur dit. Ils le croient. Ils n'attendaient que ça, qu'ils disent ça. Dans les situations tragiques, il sait se retourner, il se démonte pas.
C'était formidable. Là, il fallait vraiment qu'on soit dans le mur, quoi. L'imminence du danger, l'imminence du gouffre, de la destruction totale, lui donnait soudain du génie.
Oui, bonjour, je voudrais parler à monsieur...
C'était pourquoi, monsieur ?
Vous savez, je suis le professeur Choron.
Oui.
Et je fais un journal qui s'appelle Professeur Choron.
Oui.
Qui est en vente sur tout le territoire national.
Oui.
Si vous voulez, dans mon journal, je vous ai fait vraiment une pleine page de publicité.
Oui.
Et j'ai repris le couple, la personne d'un certain âge.
C'est le
avec la grande, de... la grande fringue, là, vous savez, là.
Oui, oui, celle le qui fait de marié, ben, certaines sont prêtes à tout pour avoir 1 000.
Voilà.
Oui.
Alors, moi, cette page-là que je vous ai faite, quoi, j'aurais bien voulu vous la vendre.
Oui.
Parce que, évidemment, mon journal me permet d'aller un peu plus loin que vous.
C'est-à-dire,
C'est-à-dire que, tout simplement, la personne âgée qui est à côté de la grande, belle mariée.
Oui.
Je lui ai descendu le pantalon jusque sur les chevilles. Alors, il y a son sexe qui apparaît, évidemment, au-dessus de son petit gilet, mais il reste très chic.
Oui.
Vous voyez, c'est vraiment d'une très grande beauté. ça respecte exactement ce que vous avez fait. Et alors, il y a la mariée qui dit « prête à tout, c'est beaucoup dire, je lui gratouille juste son bazar avec mon bouquet de fleurs, parce qu'elle a un bouquet de fleurs à la main. » Est-ce que vous pensez que ça peut séduire, monsieur...
Alors là, peut-être que monsieur... va en rigoler, mais je sais pas si d'autres personnes vont rigoler en voyant ça.
Ah mais enfin, je fais pas ça pour rigoler, moi.
non, mais
c'est... Je fais ça pour gagner de l'argent.
C'est un gag ou pas, là?
Ah non, c'est pas un gag.
Vous rappelez une autre fois. Maintenant, vous me faites perdre mon temps.
Allô?
Comme vous avez été sage assez longtemps, vous avez le droit de reparaître.
Voilà.
Et donc, c'est les années où vous avez été le plus heureux, professionnellement, en tout cas.
Ah oui. Ah bah oui. On n'avait qu'à chercher des idées et qu'elles soient formidables. On ne peut faire du bon humour qu'en étant en colère, qu'en étant indigné. La satire, c'est de bon ton. C'est Voltaire, c'est... Non. Pas de satire, pas de d'ironie, surtout. Oh, l'ironie. Non. Dans la gueule. Plein, à fond.
Finalement, vous disiez, vous avez été jeté hors de votre orbite. Et puis tous les gens autour de vous... Que ça soit Choron.
C'est un fils de garde-barrière qui.
Que ça soit Reiser, je ne sais pas trop quelles étaient ses origines sociales, mais enfin.
Une pauvre femme, une fille mère, pire que miséreuse.
C'est les fils de Prolo qui viennent mettre un journal dans les kiosques, qui est un journal de mal appris, un journal qui n'a pas appris les codes bourgeois.
C'est ça. Oui, c'est ça. Je n'ai même pas pris conscience qu'effectivement, on était tous finalement des petits pauvres. C'est des purotins, de la plus basse espèce.
La Renaissance de Charlie Hebdo, on a un sentiment que c'est un journal d'universitaire. Vous voyez, c'est le journal... Pardon ?
Oui, je vois.
C'est plus le journal des mal appris.
Oui.
J'avais amené un passage de Catrucheron, où vous dites « Dans 30 ans, les esthètes redécouvriront Harakiri, cette géniale, chère, vieille chose, si pleine de messages, avec les mêmes transposes d'esthètes qu'ils redécouvrent aujourd'hui Alfred Jarry ou les pieds nickelés d'avant-guerre. Surtout si Harakiri pouvait mourir en pleine jeunesse. »
C'est marrant que j'ai écrit ça, et c'est exactement ce qui se passe. Vous savez que tout au long de la vie d'Harakiri, tout au long de leur vie, ces deux journaux-là ont été haïs, méprisés, traînés dans la merde. Pour les jeunes gens, c'était dégueulasse, c'était de la pornographie, de la scatologie. Tout ça, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on bossait et on produisait nos petits chefs-d'œuvre dans ce climat-là. Quand je vois qu'actuellement on redécouvre avec des belles mots d'enthousiasme, oh, Harakiri, oh, Charlie Hebdo, qu'est-ce que ça a été autrefois, c'est magnifique et tout, ce renouvellement total du journalisme, nanana. Ouais, maintenant on dit ça. À l'époque, on les méprisait, on les haïssait, on les traînait plus bas que terre, et même pire que tout, on n'en parlait pas. La profession journalistique nous a totalement ignorés, on a tout le temps été en marge. C'est pas plus mal d'ailleurs. Parce que les copinages journalistiques, ça ne peut conduire qu'au compromis, au reniement de soi. Justement, on était complètement isolés, complètement ignorés, nous ne connaissions personne, ni dans le journalisme, ni dans les arts, ni dans les lettres. Personne ne nous connaissait et ne voulait nous connaître. Et c'était très bien comme ça.
Charlie Hebdo se termine en janvier 82. Vous avez fait 22 ans dans l'invention de cette presse.
Il y avait eu une mévente. Bon... Mais ce qu'il y a, c'est qu'on avait une gestion épouvantable. Choron, c'est un grand aventurier, c'est un type formidable, mais alors, il donne des feuilles de paie bidons, en disant, écoute, c'est pour la sécurité sociale, si t'étais... En réalité, il payait même pas non plus avec la sécurité sociale. Et il roulait les inspecteurs, et il les roulait dans la farine, il leur saoulait la gueule. Il les emmenait faire des repas fins à côté, là, chez Dada Mouffan. Non, il employait vraiment tous les moyens, hein. En tout cas. Ce gars-là aurait fait une carrière d'escroc formidable. Il est resté honnête tout le temps.
Mais même une carrière de vendeur. Parce que vous dites, finalement, j'ai été la perte de Choron. Parce que Choron, il ne m'aurait pas rencontré. À la place de vendre des journaux loufoques sans avenir, il aurait vendu des aspirateurs, il aurait vendu des cartes de crédit.
Ah, mais il serait rapidement devenu le propriétaire de la fabrique d'aspirateurs. Ça, c'est sûr. À cause des acrobaties de Choron, on n'avait pas de trésorerie, on avait des dettes partout, on était poursuivi par des tas de taxes, de cotisations et tout ci. Puis il a payé régulièrement nos salaires pendant 3 ans, en tout, sur 25 ans. Si j'ai une retraite minable avec maintenant, c'est bien Choron, je le dois. Enfin, on peut pas lui en vouloir.
Je vais le dire, vous réagirez comme vous voudrez, mais j'ai cessé de lire Charlie Hebdo. Et j'ai cessé de le lire aussi parce que j'étais triste pour vous. Je veux dire, à travers toute votre autobiographie, je voyais ce qu'avait été le parcours exceptionnel de types comme vous, comme Choron, non seulement sur le plan journalistique, mais tout ce qu'il avait fallu d'accumulation de rage avant ça, avant de faire Harakiri, avant de faire un journal où on vient dire à tout l'ordre établi en place, qu'il s'agisse de la presse, qu'il s'agisse de la publicité, qu'il s'agisse de la guerre, qui viennent chier dans les bottes d'un peu tous les pouvoirs en place. Quand Charlie Hebdo est reparu, je me suis abonné au Charlie Hebdo qui reparaissait, puisqu'en plus vous étiez à l'intérieur, moi je pouvais pas rater une seule de vos chroniques. Petit à petit, j'ai éprouvé de la tristesse pour vous, en fait. J'ai éprouvé de la tristesse de voir ce que devenait votre enfant. Par exemple, au moment de l'intervention américaine au Kosovo, quand il y a eu des bombardements sur Belgrade, et que Charlie Hebdo, en tout cas une partie de Charlie Hebdo, soutenait ces bombardements. J'en étais triste de voir qu'il fallait philosopher, citer Spinoza, et ainsi de suite. De voir dernièrement que le Charlie Hebdo, qui était interdit par le ministère de l'Intérieur, se retrouve aujourd'hui à être défendu à la barre par le ministre de l'Intérieur. Et donc, si j'ai cessé de lire à Charlie Hebdo, je dirais c'est par affection pour vous, parce que je me disais, merde, mais c'est pas possible que... Enfin, une vie exceptionnelle, une aventure aussi exceptionnelle se termine de manière quelconque. Vous comprenez ?
Oui. Oui. Non, je pourrais que verser un pleur, que... Finalement, on se bat et on gagne ou on perd. On se bat pas, et à ce moment-là, on ferme sa gueule. C'est ce que je fais.
Vous fermez votre gueule ?
Ben oui.
J'ai maigri de 5 kilos en 3 mois. Gandhi. Vous voyez ce que ça coûte ? Ah, c'est choisi, ça tombe bien. Ça tombe bien. Oui, ah, ouais, enfin ça va, quoi. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut, je pense. Tant qu'on n'est pas mort, ça va, quoi. Quand on est mort, je sais pas, mais je sais pas, tu vois. J'ai peur d'avoir froid sous la terre. Je me dis, je vais me faire incinérer, j'ai peur que ça me brûle. Tu vois, alors, je sais pas, je me dis, je vais me faire jeter dans la mer, je sais pas, nager, tu vois, pour me faire bouffer comme ça par un requin et tout, oh, putain. Tu sais plus comment finir ta vie, quoi. Un bistrot. Voilà, comment tirer sous la caisse du bistrot. Voilà, allez.
Voyez-vous, maintenant j'ai 85 ans, donc ça a pu durer éternellement. Moi, je pense que dans les 5 ans qui viennent, il est logique de penser que quelque chose m'arrivera. Bon, bah, je l'attends. Je m'y attends. Tout ce que je souhaite, c'est que ça ne fasse pas trop bobo. Et puis voilà. Il faut s'accepter comme petit vieux quand on est devenu petit vieux.
Enfin, vous êtes toujours grand, quand même.
J'ai perdu 7 cm, mon vieux. Et j'ai perdu 7 cm de hauteur.
Et les bacchantes, vous les portez depuis quand, alors, les bacchantes ?
Ah, les bacchantes, il y a longtemps, oui. Je ne me suis jamais rasé depuis 50 ans, j'en ai rasé la moustache. Et j'ose pas le faire, j'ai peur de découvrir la gueule qu'il y a dessous.
Merci à François Cavana. C'était un reportage de François Ruffin. Tous les bouquins de Cavana sont à lire. On a évoqué les Ruskov, mais vous avez Bête et Méchant, vous avez les Rital, enfin, vous en connaissez beaucoup et relisez-les. C'est une occasion que Là-bas, si j'y suis, vous suggère. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier et Éric Morin, Coyenne Guyenne et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission. Modeste Général, assisté d'Agnès Lepote.